Bonjour.
À la une ce matin, une image qui nous vient des États-Unis. La foule qui marche sur Washington. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier soir pour dénoncer le racisme, les violences policières. Et ça, 57 ans, jour pour jour, après le célèbre discours de Martin Luther King. Les autres titres, Hélène?
Le Tour de France qui s'élance de Nice tout à l'heure avec 2 mois de retard et presque en catimini. Spectateurs à distance, coureurs dans une bulle. Drôle de boucle cette année. La rentrée politique sur le mode traditionnel des universités d'été, le PS rassemblé à Blois aujourd'hui. Grande question, faut-il s'allier avec les écologistes en 2022? Vous en parlerez, Eric, avec votre invité à 8h20.
Oui, Olivier Faure, donc le patron du PS, un parti effectivement en recherche d'alliances. Et vos questions, les auditeurs, c'est maintenant 01 45 24 7000.
Enfin, nous irons faire un tour à Perpignan. Le festival Visa pour l'image maintenu, mais avec un nouveau visage, quand le monde de la culture s'adapte pour survivre.
France Inter.
Manifestation monstre, des milliers de personnes donc à Washington hier pour dénoncer le racisme, 57 ans, jour pour jour après le I Have a Dream de Martin Luther King. Mais aussi 3 mois après la mort de George Floyd et 5 jours après une nouvelle bavure policière contre un Afro-Américain dans le Wisconsin, Jacob Blake, grièvement blessé, 7 balles dans le dos. C'est depuis une Amérique déchirée entre les émeutes d'un côté et les milices d'extrême droite ou pro-Trump de l'autre. Hier, les manifestants au pied du mémorial de Lincoln ont surtout voulu dire que le rêve n'était pas mort. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips.
La foule crie les noms de ceux tués ou grièvement blessés par la police ces derniers mois. George Floyd, Breonna Taylor, Jacob Blake, son père d'ailleurs, est à la tribune. Il y a, dit-il, 2 systèmes judiciaires aux États-Unis. Un pour les blancs, un pour les noirs. Celui pour les noirs ne fonctionne pas. Je suis fatigué de voir tous ces jeunes noirs souffrir. Dans la foule, des volontaires distribuent des tracts pour inciter les manifestants à s'inscrire sur les listes électorales et à voter le 3 novembre. Oui, j'espère qu'il y aura un changement, dit Penny du New Jersey. Il faut vraiment qu'on se débarrasse de Trump. On sent aussi dans la foule de la colère, parfois un peu de désespoir. On a l'impression d'être dans un cercle infernal de brutalité policière, dit ce révérend. On voit ça encore et encore. On veut dire au monde, ça suffit. Il y a 57 ans ici, c'était la marche sur Washington. Regardez, on est toujours là à réclamer justice. En milieu d'après-midi, les milliers de manifestants quittent le mémorial de Lincoln pour aller se recueillir devant celui de Martin Luther King, un peu plus loin. Nous réaliserons le rêve de mon grand-père, promet sa petite-fille, Yolanda Renecki. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
En attendant, voilà Donald Trump sur les chemins de la campagne présidentielle. Et encore une fois, hier soir, devant ses partisans dans le New Hampshire, il sort sa carte de la loi et de l'ordre. Joe Biden en candidat du chaos et les manifestants qui ont osé protester pendant son discours de nomination jeudi soir, une bande de voyous et d'anarchistes. C'est dans ce contexte que disparaît le premier super-héros noir, Black Panther, créé par Marvel, mais incarné sur grand écran en 2018 par Chadwick Boseman. L'acteur est mort d'un cancer du côlon. On l'a appris cette nuit, il avait 42 ans. Black Panther avait explosé tous les records au box-office mondial. Chadwick Boseman, devenu plus qu'un héros, un symbole. Hommage cette nuit sur Twitter du candidat démocrate Joe Biden.
À bicyclette, le Tour de France. Le top départ, ce sera cet après-midi, 14h15, près de la promenade de Nice, dans un département en zone rouge.
L'ombre du Covid sur la grande boucle, avec des spectateurs tenus à distance, des coureurs maintenus dans une bulle, un quasi huis clos, mais le virus n'a pas tué le rêve, celui de Thibaut Pinot de finir en jaune. Mythique dossard 51 sur le dos, encore une fois, lui qui s'était blessé à 2 jours de la fin l'an dernier, a soif de revanche, il le dit à Fanny Lechevestrier.
On nous répète presque tout le temps que c'est l'année ou jamais pour les Français, donc voilà, maintenant on le prend avec le sourire, mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, je me mets beaucoup moins de pression. J'ai toujours dit que la pression la plus négative que j'avais, c'était la pression que je me mettais moi-même. Le maillot jaune, c'est un cadeau, quoi qu'il arrive. On ne peut pas parler de maillot jaune empoisonné, c'est impossible. Surtout quand on ne l'a jamais porté. Pour moi, porter le maillot jaune, ce serait un rêve. Donc si je peux le porter demain en gagnant à Nice, je le porte tout de suite. Donc il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère vraiment, avant de finir ma carrière, porter un jour le maillot jaune. Ce serait vraiment quelque chose que... ce serait vraiment un manque dans ma carrière de ne jamais porter le maillot jaune, parce que c'est toujours été un rêve de porter ce maillot. Donc quoi qu'il arrive, ça ne sera jamais un cadeau empoisonné.
Thibaut Pinot qui devra affronter le tenant du titre Bernal, le Slovène Roglic, grand favori, ou encore son compatriote Alaphilippe. Première étape donc aujourd'hui autour de Nice, 156 km, favorable aux sprinteurs. Le Covid en recrudescence exponentielle, alerte la Direction Générale de la Santé hier, plus de 7000 nouveaux cas détectés. Pour l'instant, les hospitalisations et les admissions en réanimation restent plus ou moins stables, mais le port obligatoire du masque s'étend un peu partout dans les grandes villes. Strasbourg et Bordeaux devraient bientôt rejoindre Paris et Marseille, 21 départements en zone rouge au total, et le gouvernement qui recommande aux familles de se faire tester avant d'aller voir leurs proches en EHPAD. À l'échelle européenne, c'est toujours difficile d'y voir clair. Quand la France mise sur les masques, la Hongrie, elle, par exemple, choisit de fermer ses frontières jusqu'à fin septembre au moins. Et puis en Allemagne comme en Autriche, ce samedi, les anti-masques ont prévu de se mobiliser. Manifestation à Berlin tout à l'heure, largement soutenue par l'extrême droite. On attend plusieurs milliers de personnes. En bref, encore cette rencontre pendant 2 heures hier entre Emmanuel Macron et les journalistes. Le reconfinement, on fait tout pour l'éviter, mais ce n'est pas exclu, a dit le président, qui a aussi annoncé consacrer 15 des 100 milliards d'euros du plan de relance à l'innovation made in France et aux relocalisations. Au passage, Emmanuel Macron a mis fin au vrai faux suspense. Ce sera bien François Bayrou, le prochain patron du Haut Commissariat au plan et à la prospective, le président du Modem, qui est toujours mis en examen dans l'affaire des assistants de son parti.
Et la politique encore avec les universités d'été.
Une partie de la droite autour de Bruno Retailleau à la Baule ce week-end et le PS réuni à Blois. Les socialistes ont invité des écologistes comme Yannick Jadot ou Cécile Duflot. Mais si le patron Olivier Faure milite pour l'alliance des gauches, ce n'est pas le cas de tous. Les anciens ministres de François Hollande, par exemple, militent pour une candidature PS à 100% en 2022. Le débat est déjà ouvert. Laurence Perron.
Si l'on mesure la vitalité d'une université d'été à l'aune de l'intensité de ses polémiques, Blois est un bon cru pour le PS. François Rebsamen, le président des élus socialistes, a ouvert les hostilités sur la question de l'alliance avec les écologistes pour 2022.
Je dis que sans les socialistes, il ne peut pas y avoir de victoire possible.
Les anciens ministres hollandais, Stéphane Le Foll en tête, réclament au plus vite un congrès pour clarifier la ligne. Chez les jeunes socialistes, Gabriel ironise.
Stéphane Le Foll parle de d'abord travailler, on dit la même chose. Et ici, c'est l'occasion de travailler. D'ailleurs, je ne sais pas si... Je n'ai pas encore croisé Stéphane Le Foll.
Le patron du PS, Olivier Faure, a toutefois ses détracteurs chez les jeunes. Samir, militant du Val d'Oise.
Ce serait bien qu'Olivier Faure déclare la révolution idéologique avant de commencer à discuter avec des partenaires qui, de toute évidence, s'intéressent plus aux voix qu'on peut leur apporter qu'à une véritable aventure commune.
Et les amis, on peut tous descendre d'un ton, là.
Raphaël Glucksmann, l'allié de Place Publique, chantre de l'unité.
La force centrale aujourd'hui, c'est le libéralisme. La force alternative au libéralisme aujourd'hui, c'est le nationalisme. Toutes ces discussions à gauche pour savoir qui est central, qu'il l'est pas, sont pathétiques. Parce que la vérité, c'est que la gauche, dans son ensemble, si elle continue comme ça, va être marginale.
Le patron du PS n'a cessé de le répéter. Arrêtons de nous compter. Essayons plutôt de voir comment gagner.
Et Olivier Faure sera donc l'invité de France Inter tout à l'heure.
À partir de 8h20.
À partir de 8h20. Enfin, Covid encore, mais côté culture, le Premier ministre a annoncé hier soir à Angoulême, à l'ouverture du Festival du film francophone, une enveloppe de 165 millions d'euros supplémentaires pour soutenir la création du ciné français. Un secteur qui, pour survivre, s'adapte. Le Festival international de photojournalisme, lui, Visa pour l'image à Perpignan, a été maintenu. Merci, Internet. Explication Alexandra Hakoun.
Fini les déambulations dans les rues de Perpignan au gré des expositions. Tout a été concentré cette année sur 3 sites, avec sens de circulation et port du masque obligatoire. Les rencontres publiques photographes annulées, idem pour les soirées de projection en plein air. Jean-François Leroy est le directeur de Visa pour l'image.
Il fallait prendre la décision d'installer les gradins et l'écran mi-mai et commencer la construction le 15 juillet. Et à l'époque, on n'avait aucune visibilité sur ce qui allait se passer, donc on a préféré renoncer.
Ou plutôt tout basculer sur le net, y compris l'intégralité des expositions. Une idée que Jean-François Leroy avait toujours repoussée, car contraire, selon lui, à l'esprit de Visa.
Perpignan, j'ai toujours dit que c'était l'anti-réseau social. C'est-à-dire que nous, on est en ville, on se voit, on se parle, on boit des coups, on se touche, on s'embrasse. Ben là, si vous voulez, on renonce partiellement à cette dimension humaine. Et on s'ouvre effectivement au numérique en espérant qu'on va toucher un public qu'on ne touchait pas d'habitude.
Sans oublier les photographes pour qui cette 32e édition se devait d'exister.
C'est un signal fort qu'on envoie à une profession qui est largement sinistrée en ce moment parce qu'il n'y a pas eu de commandes, les photographes sont exsangues. Et donc continuer à montrer qu'on s'intéresse à eux et qu'on montre le meilleur de leur travail, je trouvais que c'était important.
Avec pour principale thématique cette année l'écologie, les révoltes urbaines et la crise du Covid.
Alexandra Akoun, visa pour l'image à Perpignan et sur internet. Donc c'est jusqu'au 27 septembre et c'est gratuit, mais oui.
Allons-y, Hélène Journel, Hélène Rousset pour le journal dans l'ordre. Le temps avec vous, Jean-Michel Goninski. Le vent passe au nord et les températures sont en baisse.
Et oui, c'est souvent la conséquence de cette orientation au secteur nord, donc des valeurs qui vont s'orienter généralement entre 17 et 22 degrés cet après-midi, avec simplement 17 à 18 le long de la Manche, 20 du Val-de-Loire à la région parisienne, 22 en Rhône-Alpes, dans le sud-ouest, le golfe du Lion et le long de la frontière allemande. La Côte d'Azur et la Corse vont se démarquer avec 27 à 32 degrés cet après-midi entre Nice et Ajaccio, avec une ambiance instable aujourd'hui, ponctuée d'averses et de coups de tonnerre qui va s'affirmer de plus en plus au fil de la journée. Ce matin, le ciel est déjà bien menaçant près de l'océan, de la Manche et du Roussillon aux Alpes. Et puis en journée, ce temps instable et orageux va gagner une grande partie du pays.